Marcello, merci beaucoup. Marcello, vous êtes justement un voyageur, puisque en regardant votre. Vous êtes au moins un voyageur dans les institutions universitaires, puisque vous avez d'abord été à Pise, ensuite vous avez fait votre doctorat à Paris 4, c'est bien ça. Et puis maintenant vous êtes professeur à l'Université de Montréal. J'ai l'impression que cette question du web et de l'éditorialisation du web est une question importante dans l'ensemble de votre démarche intellectuelle et j'y ai trouvé quelques origines dans les pensées de Lévinas, de Merleau-Ponty. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on peut regarder un travail qui s'inscrit dans une durée aussi.
Merci beaucoup. So I prepared this presentation in English, but I'm going to speak in French because Enrico Terrone told me that there were not enough presentations in French, and I'm very sensitive to this argument because I live in Montreal and we are struggling all the time with if we have to speak in English or in French. But my slides are in English.
C'est très bien.
et donc je passe au français, pas pour vous parler du web, mais pour vous parler de la crise d'adolescence de Socrate, qui s'est demandé à un certain moment si il devait être philosophe ou architecte quand il serait grand. Et en fait, si vos enfants vous posent une question de ce type-là, répondez-leur tout de suite mieux architecte que philosophe. Donc, et c'est en fait ce que Socrate répond. Quand justement, on est dans Paul Valéry, au Palinos ou l'architecte, et Valéry imagine justement dans l'autre tombe Socrate qui parle avec Phèdre et qui dit: j'aurais dû être architecte parce que l'architecture est tellement supérieure à la philosophie. Et pourquoi l'architecture est supérieure à la philosophie? Pour une série de raisons. La première chose, c'est que l'architecture est un art qui nous entoure. Nous sommes entourés par l'architecture. Et donc, nous pouvons agir dans un espace architectural. Ça, c'est super. Donc, il y a quelque chose de réel dans l'architecture. Et la deuxième chose qui peut paraître bizarre, l'architecture est un art du mouvement. Pourtant, on se dirait, en français, le joke fonctionne, les immeubles sont immobiles, en italien encore mieux, gli immobili sono immobili. In English it doesn't work so well, buildings are still, so it doesn't work. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un art du mouvement. Pourquoi? Il pense aux formes géométriques qui construisent les bâtiments. Donc c'est quoi? Il fait un exemple très simple, une ligne droite. C'est l'injonction marche en laissant ces deux arbres à la même distance. Et donc, en effet, là, on est dans le mouvement. L'architecture est par excellence l'art du mouvement. Tandis que la philosophie est une catastrophe majeure parce que c'est... après, j'ai fait une rétro-traduction de ma traduction en anglais de Valéry. Valéry dit « Les philosophes peuvent construire des châteaux imaginaires, construisent des châteaux imaginaires. » Et ça, c'est pourquoi ils peuvent ne pas faire attention aux détails de leur construction. Parce qu'ils ne voient jamais leur bâtiment s'écrouler, parce qu'ils n'existent pas. Donc, très clairement, la philosophie, cette critique violente de Valéry contre la philosophie, se base sur le fait que les philosophes travaillent avec des mots morts, donc qui sont immobiles, qui sont statiques, et en fait, on peut comprendre que derrière, il y a une critique à l'écriture en général, hein, pas seulement à la philosophie, et encore plus, en général, tous les mots sont, dans cette pensée valérienne, sont comme des arrêts sur image. Et donc, en effet... n'ont pas la même réalité d'un bâtiment. On ne peut pas agir avec les mots, selon Valéry. Évidemment, tout cela est une critique à un paradigme d'interprétation du réel qu'on peut appeler les paradigmes représentationnels ou les paradigmes représentatifs, qu'ici Norman Rockwell s'amuse à déconstruire. Donc, est-ce qu'il y a une représentation? C'est demande Norman Rockwell. Mais bon, très clairement, ce que Valérie veut dire avec sa critique contre l'écriture, c'est que l'écriture représente, donc on est dans quelque chose qui nous permet pas d'agir, tandis que l'architecture est un espace où l'action est possible. Alors, question, est-ce qu'on peut faire le même discours que faisait Valérie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut revenir à la crise d'adolescence de Socrate et lui dire que finalement, ce n'était pas le mauvais choix? Je pense que, un peu oui, je vous anticipe. Est-ce que, si on pose les questions sur l'écriture numérique, est-ce qu'on peut dire les mêmes choses que disait Valérie? Le code, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme des paroles mortes? Alors, quelques petites précisions. Je vais parler de digital space, d'espace numérique plus que de web. Je vais m'expliquer pourquoi tout à l'heure. Je pense que, en fait, c'est très difficile de parler de web aujourd'hui et que c'est quelque chose, comme le faisait remarquer hier Juan Carlos, qui est un mouvement et qu'on ne peut pas essentialiser. L'espace numérique non plus, mais bon, on peut jouer avec. En tout cas, l'espace numérique, je dirais, est fait d'écriture. Donc, là, je me rallie à ce que dit Maurizio, par exemple. Tout est écriture dans l'espace numérique. Même les images sont de l'écriture. C'est du code. Donc, c'est écrit sur des bases de données. Un profil, toutes les données, les vidéos, tout ça, c'est de l'écriture. Alors, très bien. En fait, mon hypothèse est qu'on passe, que je vous propose maintenant, cette image est agaçante, je sais, c'est la TIFF qui bouge, mais c'était la meilleure que j'ai trouvée pour rendre compte de ce passage. On passe d'un paradigme représentationnel à un paradigme performatif. Là, je ne vais pas parler de performativité parce que, justement, il y a un débat très long qu'il faudrait citer. Donc, je ne vais pas faire la différence entre performance et performativité. Je ne vais pas revenir à cette convergence qui me semble très intéressante, le fait qu'on traite. Je pense que ce paradigme performatif est un paradigme qui émerge depuis plusieurs années. Et en effet, on peut voir la convergence de cette émergence, par exemple, dans les études de théâtre, dans les performance studies au théâtre, donc Schechner, par exemple, toute la question de la performativité des speech acts chez Austin, tous les débats, en fait, entre Searle et Derrida plus tard sur cette question-là. Je pense que l'espace numérique est un espace qui aide cette émergence d'un paradigme qui n'est pas pour autant à cause du digital, mais au contraire qui s'insère dans une tradition culturelle beaucoup plus longue. C'est ça que je vais essayer de montrer dans ma présentation, que je vais essayer d'être court aussi parce que tout le monde a faim. Donc, les questions à se poser, au début pour comprendre qu'est-ce que le numérique, in English it doesn't work, the nominalization of the word doesn't work, in French it works, even if we begin to use it in English too, I found it in some academic papers. So, what's the digital? Qu'est-ce que l'espace numérique? Et troisième chose, quelle est la relation entre l'espace numérique et le web, vu qu'on a parlé jusqu'à maintenant de web? Alors, première chose, the digital, je pense qu'il faut tout de suite abandonner l'idée que le numérique soit quelque chose lié à des outils. Ce n'est pas vrai. Le sens que nous donnons au mot numérique est de plus en plus un sens culturel. Nous parlons de notre société quand nous parlons du numérique, pas seulement d'ordinateur, mais de l'ensemble de nos visions du monde qui sont changées, entre autres, par les ordinateurs. En fait, je dirais que le mot numérique est le symptôme d'un malaise institutionnel. En fait, le numérique non plus, il n'existe pas. Je vous explique très rapidement avec une anecdote. La République française, m'a toujours refusé à plusieurs reprises la qualification à maître de conférence parce que j'ai demandé la qualification en philosophie et un science de la com. Et science de la com disait, ça, c'est pas de la science de la com, peut-être c'est de la philosophie. Et philosophie disait, ça, c'est pas de la philosophie, peut-être c'est science de la com. En fait, aujourd'hui, j'enseigne, je suis recruté sur un poste qui s'appelle culture numérique dans un département de littérature des langues françaises, moi qui suis italien et qui ai un diplôme de doctorat en philosophie. Quel est le problème, là? C'est, en gros, et qu'est-ce que je fais là-bas? Bah, les collègues, d'habitude, m'appellent quand leur imprimante ne fonctionne pas. Mais en fait, pourquoi on crée un cours de culture numérique dans un département de littérature française? C'est parce qu'on a des pratiques qui émergent, qui ne rentrent plus dans aucun champ disciplinaire connu, et qu'en gros, on invente un nom pour dire tout ce que l'institution ne sait pas trop comment traiter aujourd'hui, on le met dans le mot « numérique ». J'espère que ce mot disparaîtra aussi assez rapidement. Pratiquement, on pourrait l'utiliser comme un synonyme de présent. Actuel, on disait ce matin peut-être, présent. Bah, c'est notre société est une société numérique. Pas parce que nous utilisons des ordinateurs, mais parce que c'est ce qui vient après contemporain. On a eu une société moderne, une société contemporaine, et on a aujourd'hui une société numérique. Probablement, ce mot va passer à la trappe avec beaucoup d'autres mots qui ne signifient pas grand-chose. Mais en fait, d'où il vient, probablement, c'est un mot qui surgit, bien évidemment, dans la tension avec l'analogique, qui... pratiquement plus personne ne pense, hein, cette discrétisation du monde, etc., qui nous renverrait d'ailleurs aux questions valériennes de tout à l'heure, mais bon. Mais, disons, l'émergence forte du mot dans notre quotidien arrive à partir des années 90 avec l'émergence du web. Alors, après un moment de grand mode du virtuel, années 80, justement, virtual reality, etc., etc., puis on commence à parler d'autres choses, on se demande si le web... Bon, qu'est-ce qu'Internet et puis qu'est-ce que le web? Et bon, les choses, évidemment, sont très différentes. Donc, c'est vraiment le web, selon moi, qui pose la question. Est-ce que c'est un espace séparé ou non? En effet, le mot du virtuel semble ne plus fonctionner. On commence à parler des numériques à partir des années 90. Donc, en effet, je crois que... On commence à en parler. Disons, le mot commence à avoir une importance fondamentale dans notre discours public. En effet, est très lié, c'est très lié au web, mais ce n'est pas que... le web. Le web a été, disons, ce qui a le plus bouleversé nos cultures et nos pratiques culturelles et qui a déterminé, en effet, l'émergence de plein de choses qui nous ont fait dire, bon, là, il y a un changement quand même. On ne peut plus continuer à appeler ça, par exemple, littérature contemporaine. Il nous faut un type qui, outre que probablement réparer nos imprimantes, sache s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui. Et en effet, c'est en partie à cause du web. Bon. Je vais essayer de dire pourquoi je pense qu'on peut penser le numérique comme un espace architectural. Et là, je reviens à ce que disait Enrico tout à l'heure. Et je dirais plutôt un espace qu'un temps. Je dirais que pourquoi ? J'essaie de m'expliquer. J'essaie de m'expliquer en donnant deux secondes, donc c'est un peu compliqué, une définition générale d'espace. Quand je parle d'espace, je ne pense pas évidemment à l'espace cartésien. Je ne pense pas à l'étendue homogène de Descartes ou de Galilée, donc avec, je ne pense pas non plus à l'espace comme catégorie formelle de la sensibilité, à Lacan, je pense plutôt à un espace foucauldien, c'est-à-dire à un espace comme, Foucault d'ailleurs en parle dans un texte sur les hétérotopies. Et il fait la différence entre trois types d'espaces. L'espace médiéval, qui serait l'espace de la localisation, puis l'espace de Galilée, qui serait l'espace de l'étendue, et puis l'espace actuel, qui serait l'espace de l'emplacement. C'est quoi? C'est une série de relations entre des objets. Et c'est tout. C'est une série de relations entre des objets. Ces relations sont des relations, en effet, aussi discursives. Et c'est là où je me distancie un petit peu de la définition d'Enrico tout à l'heure, qui fonctionne, mais c'est pour ça que je ne dirais pas qu'il est, qu'il est quasi abstrait. Je ne pense pas, parce que... Donc cette salle est une relation entre des objets, moi et vous. Quelqu'un est dans la salle, quelqu'un à l'extérieur de la salle. On peut se voir ou pas voir. Et tout ça, par contre, porte un discours. C'est un espace parce que ces relations-là sont insérées à l'intérieur d'un discours. On est dans une salle d'une institution académique, on est en train de faire un colloque. Si on n'avait pas ça, cet espace ne serait pas un espace. Peut-être il serait une étendue, mais il ne serait pas un espace. Donc voilà, une série de relations entre objets, dedans dehors, intérieur, extérieur, visible, invisible, proche, loin, central, périphérique. Bon, l'espace numérique, là je vais expliquer pourquoi. L'espace numérique n'est pas du tout, dans ce sens-là, un espace séparé. Ce n'est pas un espace indépendant. Il est plutôt notre espace principal, parce que j'ai défini par espace numérique l'ensemble des relations entre les objets aujourd'hui. Et ces relations sont en effet des relations qui sont construites, par exemple, par la relation entre mon profil Facebook et le profil Facebook d'Enrico. Oui, l'espace de notre société est aussi fait par des relations qui sont, elles, techniques. Comme d'ailleurs, la relation entre moi et vous est complètement technique. Il y a un dispositif spatial appareillé, des chaises, une table, un projecteur, il y a des appareils électroniques, etc. etc. Donc l'espace est toujours et a toujours été appareillé et toujours été médiatisé. L'espace numérique fait exactement la même chose. Je vous fais un exemple. Quand on achète, et dans ce sens-là, je ne vois pas du tout qu'il y a d'un côté le web et de l'autre côté le non-web. En fait, j'ai du mal à dire s'il y a d'un côté le numérique, de l'autre côté, il y a quoi? Je dirais il y a le pré-numérique, ce qui était avant. Comme si aujourd'hui, on vous disait il y a la société contemporaine et puis, bah, puis il y a ce qu'il y avait avant, société moderne. En fait, quand on achète, et là, l'exemple est assez simple, quand on achète un livre sur Amazon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a un espace structuré, c'est les bases de données, c'est les algorithmes, c'est la structure de l'espace Amazon. J'ai ce livre qui est à la une, pour moi, peut-être pas pour Enrico, mais bon, pour moi, il est à la une. J'ai une relation entre les livres, j'ai un classement de ces livres, exactement comme dans une bibliothèque ou dans une librairie, plutôt. Et en fait, des livres sont à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin. Ils sont plus ou moins visibles, plus ou moins proches l'un de l'autre, plus ou moins centraux ou périphériques. Hein? Donc, par exemple, j'ai toute une série de suggestions qui sont proches, hein, qui sont là. Et en fait, un livre, en effet, on peut calculer dans ce sens-là la distance, même si ce n'est pas une distance continue, et je suis d'accord, mais on peut calculer la distance. Il y a un algorithme qui décide à quel point le livre arrive dans la liste. Quand est-ce que je vais tomber sur le livre de Maurizio? Bah, l'algorithme le décide. Et il est dans 3 livres ou dans 4 livres. Donc, c'est vrai que c'est une distance discrète et pas continue. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, ce n'est pas une étendue, oui. Mais c'est quand même un espace, c'est quand même concret dans ce sens-là. Donc, plus ou moins proche. Et évidemment, tout ça porte des valeurs. Hein. C'est le livre qui est à la une est le livre le plus vendu, donc le plus visible, mais donc celui qui a aussi le plus d'autorité. Donc, dans cet espace-là, tout est écriture. Nos clics, on en a parlé souvent, nos clics sont de l'écriture. Quand je clique pour acheter un livre, qu'est-ce qui se passe? Bah, que concrètement, bah, j'écris quelque chose sur une base de données et cette base de données devient une partie de cet espace-là. C'est-à-dire, concrètement, je déplace le livre. Je le mets ailleurs. Le fait que moi, j'ai acheté, par exemple, le livre de John Searle et ensuite le livre de Maurizio Ferraris sur Internet fait que quand Alberto arrive sur Amazon et clique sur le livre de Maurizio Ferraris, ensuite, l'algorithme va lui proposer le livre de John Searle. Pourquoi? Bah parce que quand moi j'ai fait les clics, j'ai déplacé le livre, concrètement. Donc l'algorithme a analysé mon comportement et a créé un rapprochement entre les deux. Donc tout ce qu'on fait en fait sur Internet, sur le web, c'est de l'écriture et cette écriture est une structuration de l'espace. Et en fait, donc, comme je le disais, tous les clics influencent l'espace d'Amazon, exactement comme si dans une librairie, je déplaçais les livres de Maurizio, que je les trimballais et je les mettais dans une autre étagère. C'est exactement la même chose, très physique. Là, j'arrive au parallèle avec l'espace non numérique. On pourrait dire, ok, mais ça c'est sur Amazon, donc on est sur le web, mais ce n'est pas un vrai livre. Et bien là, je pense qu'on se trompe à dire ça. Le web des objets va de plus en plus dans le sens qu'il y a aucune différence entre un URI, donc l'URI, l'identifiant unique d'un objet, et l'objet lui-même. C'est-à-dire un URI n'est pas une représentation de l'objet, c'est l'objet. C'est là où les paradigmes des représentations ne fonctionnent plus. Quand je déplace le livre, je déplace un livre. D'ailleurs, les URI ne sont pas sur l'universel livre à mes iPads de Maurizio Ferraris, mais sur cet exemplaire-là, ce qui permet qu'après je peux le retourner, cet exemplaire-là, parce que cet exemplaire-là était défectueux, par exemple. Le fait que la distribution Amazon, c'est un bon exemple, parce que la distribution est pratiquement complètement automatisée, c'est-à-dire que quand je clique, je déplace concrètement un robot qui va chercher dans l'entrepôt le livre et qui l'amène quelque part. Puis l'idée des drones qu'ils n'ont pas finalement réalisé, mais qu'ils ont quand même expérimenté, qui est tout à fait pensable et possible, bah le livre après arrive, ces livres-là, chez moi. Il y a plus, ce n'est pas, donc quand je manie un URI, un identifiant unique, je ne manie pas une image du livre, je manie le livre lui-même, je le déplace physiquement, il arrive chez moi après. Et donc, une définition d'espace numérique, c'est une série de relations, donc ça a une valeur fortement architecturale, bah, c'est une architecture en fait, c'est notre espace, c'est l'espace dans lequel nous vivons, c'est un espace en effet qui est fait par un ensemble d'appareils, dont le web en effet, et mais pas que le web, parce que par exemple, toutes les applications de téléphone portable ne sont pas du web, elles marchent toujours via le réseau internet, mais elles ne sont pas forcément du web. Donc, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre les applications et le web lui-même? Assez difficile à dire. Donc c'est pour ça que très difficile d'identifier ce que le web est. On peut dire ce qu'il était dans la tête de Tim Berners-Lee dans les années 90, quand l'HTML a été créé, quand le protocole HTTP a été créé, etc. Mais aujourd'hui, en fait, est-ce que l'usager, quand il utilise son smartphone ou sa tablette, a une idée du protocole qu'il est en train d'utiliser pour échanger des données via son application, par exemple, de Expedia ou je sais pas quoi, on ne le sait pas, donc un peu plus difficile. Donc c'est simplement notre espace principal. C'est un effet hybride, ce n'est pas seulement le web, c'est l'ensemble, c'est un espace technique, plus ou moins technique, toujours médié, mais en effet, il y a des URI, il y a des sites web, il y a des chaises, il y a des tables, etc. Et ça, on peut voir que l'ensemble des relations de pouvoir aussi sont hybrides. Aujourd'hui, on voyait avec Isabelle la question de l'impact factor, par exemple. Oui, les dispositifs d'autorité, il y a des nouveaux dispositifs d'autorité sur le web, en effet, mais sur le web, il y a en même temps aussi les dispositifs d'évaluation classique, par exemple, un site institutionnel reste complètement dans les dispositifs d'autorité très, très, très classiques. Et donc, c'est un espace dans lequel nous habitons et donc dans lequel nous agissons. Et c'est un espace en mouvement parce que nos actions le changent. Donc là, vous voyez qu'avec ces points, on peut passer aux questions. Comment il est organisé et quelles sont ses caractéristiques spécifiques? Donc, ce que je vous propose pour analyser tout ça est le concept d'éditorialisation. This word doesn't exist in this meaning in English. Actually, it exists in French, but not in English. And I try, even if I'm trying to introduce it, but the first meaning in English is quite different. En français, éditorialisation apparaît à partir des années 2005-2007. Bah, Chimon l'utilise en premier. Un peu flou ce que ça signifie aujourd'hui, c'est très utilisé par la communauté savante. La définition que je vous propose est l'éditorialisation est l'ensemble des dynamiques qui produisent et structurent l'espace numérique. Donc ce sont des dynamiques de structuration, ce sont des dynamiques qui sont des interactions entre des individus et des collectifs, et des actions collectives, avec un environnement numérique. Alors, il faut que je m'explique un petit peu. Je vais le faire avec des exemples. Quand je parlais tout à l'heure d'Amazon, qu'est-ce qui se passe sur Amazon? Bah, il y a des relations entre des objets, des URI, des livres, des profils. Mon profil d'acheteur, par exemple, vos profils d'acheteurs, un magasin, un entrepôt qui fait ensuite la distribution des drones, etc. Donc, il y a ça. Et puis, il y a ce que nous faisons, j'achète ce livre, Eric en achète un autre, puis je poste un commentaire sur ce livre, il est bon, il n'est pas bon. Ensuite, ce commentaire, par exemple, est repris, bah, ce livre est linké à partir d'une autre page. Dans mon blog, je parle du livre de Maurizio, puis je mets les liens vers Amazon, etc. etc. Puis j'ai tweeté que j'ai écrit quelque chose à propos du livre de Maurizio, qui donc ce qui renvoie à mon blog et ensuite renvoie à Amazon. Donc je restructure cet espace-là, mais en fait, je ne suis pas les seuls à les faire, je suis à l'intérieur d'une série de dynamiques très, très, très complexes et collectives. Je ne gère pas vraiment comment je structure cet espace. Mon écriture n'est jamais une écriture exclusivement individuelle. Je ne peux pas savoir ce que fait Isabelle, je ne peux pas savoir ce que fait Enrico. Et en fait, c'est l'ensemble, c'est l'interaction de toutes ces actions et toutes ces dynamiques qui donnent la structure de l'espace. Et donc, par exemple, il y a des algorithmes qui interagissent, des plateformes, des bases de données, nos actions, nos pratiques, et tout ça est un mouvement continu. Je dirais qu'il faut souligner trois aspects de l'éditorialisation. Le premier est en effet que l'aspect technologique, en effet, il y a des dispositifs, il y a des appareils que nous utilisons. Il y a des plateformes, il y a des algorithmes, il y a des bouts de câbles et des choses techniques. Mais en fait, il y a un aspect pratique, c'est-à-dire il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle un déterminisme technologique où on se dit oui, l'éditorialisation est portée, nos actes sont portés et structurés par les plateformes ou bien la technique nous pousse à faire ça. En fait, non, nos pratiques interagissent avec les dispositifs technologiques et contribuent à le produire. C'est que nous faisons justement structure les dispositifs technologiques. Donc il y a un rapport, disons, circulaire entre l'aspect technologique et l'aspect pratique. Et puis finalement, un troisième aspect, l'aspect culturel, c'est-à-dire que nous projetons nos valeurs culturelles sur nos pratiques d'éditorialisation. Je parle du livre de Maurizio parce que je pense que c'est un bon livre, mais je pense que c'est un bon livre, pas à cause d'Amazon aussi, peut-être parce qu'Amazon, il me l'a mis dans la couverture, mais aussi parce que j'ai d'autres pratiques culturelles qui font que j'ai des valeurs déterminées, des idées particulières, etc. Donc, à partir de là, les critiques de Valérie, il critiquait l'écriture parce que ça produit des mots morts, mais l'espace numérique est fait d'écriture et l'espace numérique est un espace où nous habitons exactement comme l'architecture de Valérie. Donc peut-être c'est pas si mal d'écrire. Et nous agissons dans cet espace exactement comme dans les temples ou dans les églises dont parlait Valérie. C'est un mouvement exactement comme l'architecture de Valérie. Et écrire devient un acte architectural parce qu'il s'agit de construire notre espace. Donc l'écriture, mais dans le vrai sens du mot, c'est du code, ce sont des écritures dans le sens le plus simple du mot. En fait, l'écriture devient un acte de construction. Il n'y a plus de différence entre l'écrivain et l'architecte. Donc l'écrivain devient l'architecte de l'espace public, même si on peut se demander là, Expedia me dit que j'ai un vol demain. Justement, vous voyez, nous sommes dans un espace hybride. Et donc, l'écrivain est l'architecte de l'espace, mais ça signifie que nous passons d'un paradigme de l'écriture en tant que représentation à un paradigme performatif, c'est-à-dire que nous produisons avec notre acte d'écriture le monde. Quand j'écris sur un livre, en fait, quand j'écris sur Amazon sur un livre, par exemple, en fait, je suis en train de faire quelque chose, de changer ce que disait ce matin Isabelle. Je suis en train de produire la réalité. Là, je ne suis pas très d'accord avec ce que disait hier Casati, qui disait que c'est toujours une représentation. Non, je ne pense pas du tout. Le web n'est plus... Le web des objets le montre, le numérique n'est plus une représentation, c'est le monde. C'est un monde un peu plus complexe peut-être. Donc on passe en effet d'un paradigme de la représentation à un paradigme performatif, même si, je le répète, ce shift n'est pas dû au web ou au numérique. Disons qu'il y a eu une préparation culturelle qui remonte à au moins 50 ans avant le web, pas Internet. Internet est né plus ou moins au même moment. Mais bon. Un autre exemple, quand je écris un avis, on l'appelle comme ça, une recension sur TripAdvisor, okay, est-ce que le restaurant sur TripAdvisor est une représentation du restaurant? Moi, je pense que c'est le restaurant lui-même. Alors, je m'explique. En fait, admettons, il y a un bon restaurant dans la rue Saint-Honoré qui est central, parce que je passe tous les jours dans la rue Saint-Honoré, qui est dans un quartier chic, et donc sa place dans notre espace est déterminée par sa position. Très bien. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, sa position dans la rue Saint-Honoré n'est plus la seule chose qui compte. Je peux avoir un restaurant Avenue des France, moins chic, moins central, mais qui est le premier dans les avis TripAdvisor, les premiers de Paris. Ce restaurant est hyper central. Disons que cet avis-là, parmi les avis, on dise, vous voyez, c'est collectif, hein, c'est pas un avis, c'est l'ensemble des dynamiques qui les font d'ailleurs être le premier sur TripAdvisor et peut-être être aussi très visible sur Google Maps. Et puis aussi peut-être sur des billets, des blogs qui parlent du restaurant. Donc c'est collectif et c'est pas limité à une plateforme. Je fais l'exemple d'une plateforme parce que c'est plus simple. Ok, donc nous produisons l'espace quand nous structurons quelque chose sur TripAdvisor, donc nous produisons la réalité concrètement. Et nous le faisons de façon collective. Même si nous disons que ça, c'est un bon restaurant de poisson, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de produire les restaurants en tant que restaurant de poisson. Il serait autrement, il ne le serait pas, simplement. Hein? La preuve, c'est que une anecdote, une fois, j'enseignais dans une école d'architecture, justement, et un étudiant me disait, mais ton collègue, là, il n'est pas un architecte. Je dis, pourquoi? Parce que je l'ai cherché sur Google, je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, je trouve que l'anecdote est très intéressante. C'est-à-dire que ça fait partie de la production de la réalité. L'autre chose intéressante, c'est que c'est fait de plusieurs couches. J'ai encore 15 minutes. C'est fait de plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs avis, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs strates des réalités. Il n'y en a pas un seul. Chaque fois, nous contribuons à la création d'un niveau des réalités, mais qui n'est pas le seul. Ça peut poser des problèmes. Je m'expliquerai, et c'est là où je vais essayer de parler des méthodologies, même si en conclusion et très rapidement. Et c'est, ça bouge tout le temps. Donc les caractéristiques, en effet, de cet espace, de l'éditorialisation, de nos pratiques d'éditorialisation, sont qu'elle est performative, elle est multiple, c'est-à-dire qu'en effet, il y a plein de personnes différentes, et plein d'éditorialisations différentes. Pensez à un profil. Je peux être dans 1000 profils différents, en effet, même si c'était intéressant ce que Isabelle disait ce matin, que finalement, est-ce que c'est si fragmentaire que ça? On ne sait pas. Est-ce qu'on arrive à réunir après dans une unité? Peut-être, au moins, c'est ce que certaines plateformes voudraient faire, parce qu'évidemment, on est une cible marketing seulement si on peut savoir plus ou moins qui nous sommes, donc si on arrive à remettre ensemble les profils. Mais je peux m'éditorialiser en tant que, et je vais vous faire voir l'exemple tout à l'heure, en tant que professeur d'université, en tant que profil Facebook, en tant que MySpace, en tant qu'usager de Wikipédia, etc., etc., en changeant des noms et en changeant, en gros, en produisant moins sur plusieurs niveaux. Donc, c'est multiple et c'est un mouvement justement parce que ça change tout le temps. Petit exemple, la question des cartes est très importante là-dedans, hein, parce qu'il y a une superposition justement entre la carte et les territoires. La carte n'est plus une représentation du territoire, mais c'est le territoire lui-même. Donc, on est passé à une écriture avec un paradigme performatif et on définit l'éditorialisation comme une façon de produire la réalité et non pas de la représenter. Éditorialiser signifie construire et donc l'écrivain est un architecte. Bon, la question à se poser maintenant, c'est comment l'analyser cet espace d'un point de vue ontologique? Parce que ça, c'était un peu la question qu'on se posait aujourd'hui et qu'on se pose dans la perspective du colloque et de Maurizio. Donc, comment on peut interpréter cet espace d'un point de vue ontologique? Est-ce que c'est possible d'avoir une philosophie non représentative? Ça, c'est, je pense, la question fondamentale. La philosophie, et ça, c'était la critique de Valérie au début, a tendance à être représentative par définition. On parle de quelque chose. Donc, là, quel est le problème avec tout ça? Le problème est justement celui des niveaux superposés. Alors, l'idée à la base de l'ontologie, c'est qu'il y a une essence des choses, une, et qui est un être avec le E majuscule. Donc, il y a l'être, quelque part, puis il y a un discours sur l'être. Alors, le fait c'est, ok, là-dedans, je suis, c'est moi, c'est juste une recherche, pas sur Google Images, mais sur DuckDuckGo Images, parce que je tiens beaucoup à l'open software. Donc, ok, ça c'est moi, très bien. Laquelle est mon identité? Est-ce qu'il y a une correspondance entre moi et les représentations de moi qui seraient sur le web? Ou est-ce que, comme je le proposais tout à l'heure, non, moi c'est l'ensemble des couches éditorialisé des moins, qui sont un type, cette cravate et ces trucs, ces costumes, c'est une façon de m'éditorialiser, je dirais, de m'appareiller techniquement pour mes produits en tant que moi. Un professeur d'université qui parle dans une conférence et qui porte une cravate pour faire voir qu'il est un professeur d'université qui parle dans une conférence. Un coupe de cheveux, une façon de parler, un accent et tout le reste. Donc il y a ça. Il y a ça aussi, qui est une autre couche, qui parfois est contradictoire, par exemple parce qu'il y a des images, là il y a Milad qui apparaît à côté de moi, par exemple, tout de suite dans les moteurs de recherche pour établir une proximité. Alors, je suis aussi Milad, selon le moteur de recherche. Ça, c'est moi, en effet, c'est mon profil Twitter, avec une photo floue parce que je voulais être un peu cool. Ça, c'est moi, mais dans une couverture d'un livre de fiction que j'ai écrit, donc qui est complètement inconsistant, incohérent par rapport aux autres, moi. Hein. C'était une question que Pirandello posait déjà dans d'autres termes, mais bon, enfin, c'est un peu la même chose. Ça, c'est ma page institutionnelle sur le site de l'université. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut remettre ensemble toutes ces choses? Est-ce que, dans un paradigme représentatif typique, essaye de dire oui, ok, mais il y a toi, puis il y a des manifestations à la limite de toi ou des représentations de toi. Et en fait, l'acte de la pensée ontologique, ça serait de reporter tout ça à une unité. Donc, c'est l'idée de l'ontologie par excellence. On prend tout ça et avec différentes pistes, que ce soit les idées de Platon, que ce soit les universels, que ce soit peu importe quel type de dispositif pour amener la multiplicité à l'unité. On sait que c'est la question de la philosophie, hein, le rapport entre multiplicité et unité, mais qu'à chaque fois qu'elle a été traitée, elle a été traitée en essayant de penser le multiple comme venant l'unité. Bon, parce que sinon, le problème, si on le pense à l'inverse, c'est qu'on est dans un échec du discours. Et là, oui, en effet, je viens... le premier auteur que j'ai étudié dans ma formation a été Lévinas. Donc, en effet, je viens un peu de là. La question que se pose Lévinas, c'est en fait une question d'une multiplicité originaire. Sauf que la multiplicité originaire de Lévinas porte à ce que Ricoeur et Derrida disaient en attaquant Lévinas, c'est la fin de la philosophie. C'est la fin de la philosophie, pourquoi? Parce que là, tu dis n'importe quoi, notre discours est basé sur l'unité. Donc la multiplicité doit toujours venir après. Alors ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir une philosophie qui parte du présupposé qu'il y a une multiplicité de couches du réel et que ces couches, que cette multiplicité est, et là je rentre en contradiction parce que le mot dit l'unité, cette multiplicité est originaire. Hein? Donc c'est ça le vrai problème. Et c'est pourquoi je vous propose, juste en conclusion de cette présentation, et évidemment, j'ai un peu travaillé sur ça, mais je n'ai pas le temps ici pour bien poser les bases, mais juste comme ça, comme proposition en forme de conclusion, l'idée de métanthologie, qui est un mot utilisé déjà par Heidegger, mais pas dans le sens que je veux lui donner. Heidegger l'utilise dans le cours sur la logique quand il parle d'un renversement de l'ontologie de l'ontologie générale pour arriver à la métanthologie, mais bon, c'est une autre chose. L'idée de base de la métanthologie et la raison pour laquelle je la trouve, disons, pertinente au moment où nous faisons une réflexion sur une technique et donc sur quelque chose qui change et sur quelque chose qui nous met face à une multiplicité qui semble originaire. Donc, la base de l'ontologie est de penser que l'être est multiple. Et alors là, en anglais, je ne saurais pas comment le dire. En français, je le dis avec un trait d'union moche, hein, mais qui est être multiple ou le S, où il y a un S en multiple. Mais donc, l'être avec un E majuscule, pas les êtres. Hein. Donc là, on parle des êtres multiples. Donc il y a plusieurs êtres et il y a plusieurs ontologies. Et la métanthologie est l'ontologie qui essaye de penser cette multiplicité, mais elle essaie de la penser comment? En la performant. C'est-à-dire que la métanthologie, est par définition, ne peut qu'être une des ontologies. Donc elle n'est pas une super-ontologie, elle n'est pas, disons, le super-système hegelien, elle est plutôt une ontologie, mais elle est l'ontologie qui essaye d'exprimer une couche de l'être dans un discours qui est, lui, situé dans un temps et un espace précis. Donc ça, je pense que le discours sur la technique que je viens de faire, le discours sur l'éditorialisation, le discours qui essaye de faire émerger des choses de nos pratiques et du numérique, est une performance, donc est un aspect performatif de produire et d'organiser d'une certaine manière la réalité, comme les autres discours d'aujourd'hui, une parmi les plusieurs possibles, et qu'il faudrait que la philosophie aille de plus en plus vers une approche méta-ontologique qui permet de penser un être qui est multiple originairement, et donc les couches des réels qui sont toutes... L'idée fondamentale, c'est que la médiation et le fait que toute médiation et tout est dans un dispositif de médiation et il n'y a pas d'origine à la médiation. C'est ce que disait McLuhan, que a été très très mal lu en Europe, je trouve. Quand il disait « The media is the message », l'idée c'est que la médiation est une médiation d'une autre médiation. Donc il y a un effet derrière. Quand je regarde, mais ça, il y a quoi ? En dessous, est-ce qu'il y a la réalité ? Ben non, il y a une autre médiation. Et si j'enlève ça, donc si je regarde ma photo sur Internet, elle est la médiation de quoi ? Oui, peut-être elle est la médiation d'un autre profil. Et puis le profil, il est la médiation d'une autre chose. Et même si j'arrive à, oui, mais c'est la médiation de ça, de cette gueule-là que j'ai pendant la conférence. Oui, mais cette gueule-là que j'ai pendant cette conférence, c'est une autre médiation. C'est ma façon de médier ma présence ici. Donc, il n'existe pas une présence authentique. Donc ça, c'est l'idée. Le problème, c'est qu'ontologiquement, ça pose un problème grave, ça. Et la solution, parce qu'il n'y a pas des référents ultimes sur lesquels on peut construire une idée d'être. Et donc, la solution que je propose, c'est cette idée de méta-ontologie qui permettrait de penser, d'une certaine manière, le discours technique. Merci beaucoup.
Alors, supposez que la cantine au-dessus soit sur TripAdvisor. Et vous diriez que la cantine existe seulement sur TripAdvisor, ce qui veut dire qu'on ne risque pas de ne pas manger. Et ce qui serait même le cas pour le restaurant dont vous avez parlé, puisque je ne crois pas que le restaurant n'existe que sur TripAdvisor, puisque une qualité relevante d'un restaurant est qu'on y puisse manger.
Je suis allé un peu vite, mais la base de mon discours était le discours sur l'hybridation. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, ce n'est pas qu'il n'y a que la cantine sur TripAdvisor, c'est que la même chose que je disais de moi-même. Je suis là et je parle, en effet. Si je n'étais pas là et que je ne parlais pas, il y aurait un problème. Peut-être il pourrait y avoir une vidéo de moi qui parle. La cantine, s'il n'y avait pas la cantine, donc il y a la cantine en bas, mais... La cantine en bas n'est pas seulement la cantine en bas, est aussi, par exemple, l'ensemble des documents qui nous disent que ça ferme à 1h30. Et que sans ces deux, c'était ça, hein, c'était pas du tout, je disais pas du tout que ça existe seulement sur TripAdvisor. C'était un... Voilà. Mais je disais que, justement, c'est fait par couches. Quand je parle de couches, je parle des couches qui sont techniques, plus ou moins techniques, toutes techniques, mais plus ou moins techniques. La cantine en bas est un autre dispositif technique lui-même. Et puis, il y a le TripAdvisor, etc. C'était ça que je voulais dire.
Merci beaucoup pour la qualité des interventions et la qualité des questions aussi. Vraiment, c'est rare, c'est un sujet que je connais un peu et il n'y a pas souvent ce genre de débat. Merci à vous tous.